Une apérophonie pour la 90.8.
Tout de suite, chef.
C'est noté, chef.
On envoie.
Voici votre gratinée de culture.
Avec son émulsion de découvertes.
Infusée de musique locale.
Et émergente.
Saupoudrée de vie associative.
Mais what?
C'est l'apérophonie sur Radio Campus Grenoble.
Bonsoir, bonsoir, bonsoir à tous, bonsoir à toutes et à tous. Vous écoutez l'apérophonie sur Radio Campus 90.8. Nous sommes dans une apérophonie un peu spéciale parce que les ERE ou les étudiants de relais égalité s'invitent. Et aujourd'hui, nous sommes avec Tessa. Coucou à toi.
Salut.
Comment tu vas?
Ça va. Ça va, un peu stressé, ça va.
Faut pas. Et du coup, qui dit étudiant en relais égalité dit relais égalité dit, bah du coup... Bah, sujet sur le mois de l'égalité. Et du coup, aujourd'hui, sur quoi nous nous penchons, Tessa?
Donc aujourd'hui, on va parler politique et dénoncer le racisme à travers des formes artistiques et culturelles.
Et du coup, pour ça, bon, il y a de la musique à côté, mais nous en faites pas. Du coup, pour ça, la thématique que Tessa a dit, nous sommes avec des personnes, du coup, nous sommes avec deux personnes que je laisserai se présenter une à une, qui sont venus et qui vont nous parler de ça. Nous sommes du coup avec Mathilde Gall.
Bonjour. Bonjour.
J'espère que tu vas bien.
Ouais, ça va, hyper contente d'être là.
Sois la bienvenue sur les antennes de Radio Campus.
Merci.
Et nous sommes avec Mandy. Je vais te laisser te présenter ainsi que le collectif parce que je ne veux pas faire d'erreur.
Bonjour, je suis Mandy, membre du collectif Tcholoï.
Et bah bonjour à toi aussi, sois les bienvenus sur les antennes. Il y a déjà eu des apérophonies en lien avec du coup les ERE. Nous avons déjà eu du coup l'inceste qui a été déjà fait. Il y a déjà eu l'écoféminisme et du coup nous avons d'autres sujets qui vont arriver prochainement. Et là aujourd'hui nous nous concentrons sur le racisme. Et du coup nous allons commencer toute cette émission avec le commencement du commencement. Pour vous, en tout cas, tous les deux, vous pouvez répondre tous les deux. En tout cas, comment... Allez, il est 18h, je vais essayer de faire un bon truc. Qu'est-ce que le racisme selon vous? En tout cas, pour faire plus général.
Excusez-moi. Pour moi, le racisme n'a pas de définition. Je pourrais pas... Moi, j'ai pas une définition de racisme. Le racisme, c'est un fait de différentes manières avec... je pense que ça, le racisme est individuel. C'est comme nos anatomies humaines, quoi. Chacun de nous a un composant personnel à lui. Du coup, le racisme est aussi personnel que ça.
Bon, en tout cas, pour toi, Mathilde ?
Moi, je pense que je dirais que c'est plutôt quelque chose qui est systémique et qui met en difficulté, en tout cas qui discrimine des personnes en raison de leur origine ethnique ou de leur couleur de peau. Je dirais ça. Je dis merci à mon collègue qui m'a aidé à la trouver.
Et selon vous, comment elle peut se manifester, sous quelle forme peut se manifester du coup le racisme pour vous?
Pour moi, si je prends le racisme, il peut se manifester rien que par des clichés ou par un regard aussi. Disons, ce qui fait que moi, définir le racisme est très complexe pour moi. Parce que rien que s'adresser à une personne peut être du racisme, de l'infériorité. Du coup...
Ouais, moi je trouve que ça chouette que tu dises ce truc d'infériorité. Il se manifeste quand certaines personnes pensent qu'elles ont une supériorité sur d'autres. Et pour moi, c'est fortement lié aussi avec l'histoire coloniale de la France. On se rend compte que beaucoup des personnes qui subissent du racisme, elles ont en lien avec l'histoire coloniale de la France, où la France a cru que sa mission était de les civiliser à un moment de leur histoire. Et pour moi, dans le cas de ce qui nous occupe aujourd'hui, qui est aussi le racisme en lien avec les exilés, redoublé dans le classisme, ou en tout cas de croire que les personnes qui arrivent chez nous, elles ne sont pas capables de faire des choses, elles n'ont pas de talent, d'oublier toute une partie de leur vie pour les ranger que dans la que dans la petite boîte, personne migrante, personne exilée qui vient profiter de la France ou quelque chose comme ça. Donc pour moi, il y a vraiment ces deux aspects-là.
Et tout à fait. Et pour, du coup, vous avez, j'imagine, du coup, en tout cas de ce que vous dites, ou en tout cas de comment vous parlez de ces manifestations sur le racisme, que vous avez peut-être lié bah, du coup, à votre passé ou autre, comme quoi vous avez été déjà... du coup, déjà victime, en tout cas. Ça, vous avez déjà eu... Parce que du coup, comme nous allons nous pencher plus après sur du coup, le collectif, comme quoi vous parlez du coup d'exilé ou autre, je pense que vous avez déjà... Je pense que vous avez été du coup victime de racisme, en tout cas de ce côté-là.
Parlant de racisme, il y a aussi le racisme anti-blanc. Du coup, le racisme, il n'est pas que cadré sur des personnes de couleur qui, aujourd'hui, notamment, les gens en parlent beaucoup. Le racisme... je ne sais pas, je suis bloqué.
En tout cas, moi, je peux dire que je n'ai pas été victime de racisme. Ouais. Mais par contre, j'ai été... témoin de beaucoup d'actes racistes envers des amis que j'accompagnais. Et je trouve que... Enfin, je parle de choses systémiques parce qu'il y a les actes individuels et le regard qui sont jetés sur des personnes. Mais il y a aussi les lois et, comment est-ce qu'on considère certaines personnes. Et dans le cas des personnes exilées, il y a plein de petites lois qui sont juste faites pour que la vie de ces personnes-là soit plus complexe. Et pour moi, ça, c'est des actes racistes parce que je ne pense pas que... on le ferait pour des personnes, d'autres personnes.
Ouais, si je peux rajouter, le racisme, je disais que le racisme anti-blanc, j'en ai parlé, mais notamment ce qui nous préoccupe beaucoup, c'est le racisme de l'homme noir, parce que c'est ce qui est plus accepté, qui est médiatisé aujourd'hui. En fait, il a son origine très lointaine sur nos ancêtres qui ont été vraiment très diminués par certains peuples, par les ancêtres de ces pays, notamment très racistes, qui continuent à transmettre ces valeurs à leur progéniture, qui aujourd'hui, ne parlant plus de ces moments, mais qui reflètent ces images envers ces gens qui, notamment, peuvent être aussi rien à voir avec ce qui s'est passé ou ce qui est arrivé, au moment où ils demandent maintenant les gens d'oubli et de pardon. Mais les lois et tout ont été toujours pareilles. Depuis lors, les lois ont été faites pour que ces gens restent diminués. Tu vois, ils étaient cultivateurs, ils étaient bergers, mais leurs lois étaient faites que pour que eux, ils travaillent pour les autres. Voilà. Et qui aujourd'hui, notamment, continue, tu n'es pas à ta juste valeur, même si tu exerces les mêmes fonctions sur le terrain ou n'importe où, mais vous n'avez pas les mêmes valeurs parce que ils estiment que tu n'es pas réfléchi ou mais pourtant, tu réalises des œuvres qui sont appréciables et validées, quoi. Voilà.
En tout cas, ils te mettent dans une case. En tout cas, voilà. il y a ce moment de vouloir te mettre dans une case, de ce que tu dis.
Oui, et justement, en parlant de ça, donc le racisme, c'est quelque chose qu'on a l'impression d'associer à quelque chose de l'histoire coloniale, quelque chose qui est très vieux. Mais on voit encore de nos jours que c'est quelque chose qui persiste aussi. Et notamment, on voulait parler de la montée des idéologies d'extrême droite aussi, dans de nombreux pays, que ce soit en Europe, mais aussi dans d'autres pays, je pense au Brésil ou quoi que ce soit. Et du coup, on se demandait, pour vous, comment ces mouvements populistes servent de la question de l'immigration aussi, pour appuyer ces idées-là, et comment ils instrumentalisent aussi cette question-là.
Moi, l'extrême droite, j'ai commencé... Moi, je suis étranger en France, je suis arrivé, ça fait pas longtemps. Du coup, toutes ces extrêmes gauches, extrêmes droites, je sais même pas c'est quoi la forme ou le fond. Mais sauf que je sais qu'ils disent que ces gens-là n'aiment pas l'immigration. Mais je sais pas c'est laquelle des immigrations aussi. Si c'est celle africaine noire, ou c'est celle espagnole, ou c'est l'italien, ou c'est l'américain. Mais ce qui reste clair... Que dire qu'ils vont utiliser l'immigration pour faire un bâton politique, pour avoir pour être plus médiatisé sur le plan médiatique, avec notamment des informations très nocives pour ces peuples, où ils les font sortir que à des moments où vraiment c'est pas apprécié, voilà, ils mettent ça en avance pour faire voir ça à des gens qui suivent voilà, les infos. Pour eux, c'est ça la réalité. Mais moi, l'extrême droite, l'extrême gauche, et tout, ce que je sais, qu'ils défendent les valeurs, soi-disant, ils défendent les valeurs de la France. Ils défendent l'intégrité de la France. Mais ce qui reste clair, que de nos jours, vu que l'ouverture mondiale, on peut pas, c'est plus possible. Nous, d'ailleurs, on n'est pas trop, c'est la France qui nous a trouvés, c'est la France qui a créé notre contact. Et c'est la France qui a rendu, bon, je parle de la France parce que moi, mon pays a été colonisé par la France. Du coup, cette France nous a rapprochés et elle a utilisé une mauvaise relation entre nos deux peuples. Il a exploité, il a pillé. Et il a fait l'émigration, et aujourd'hui, on n'arrive pas à avoir un État stable, politique, qui peut gérer ici afin de stopper alors cette soi-disant migration illicite qui n'est pas profitable pour la France, mais qui est contradictoire. Parce que l'immigration, elle travaille en France, elle paye les taxes, elle paye l'impôt. Voilà. Et bref, cette immigration, elle a de l'importance pour partout où elle est, quoi. Voilà, merci.
Pour moi, pour cette question d'extrême droite, j'ai l'impression que ce qui se joue, c'est j'ai l'impression qu'il y a deux mouvements un peu qui se polarisent. Il y a d'un côté le fait que l'immigration, en fait, c'est très facile d'utiliser la xénophobie pour pouvoir créer de la division et pour pouvoir faire croire que le problème, c'est l'immigration, alors que je suis vraiment persuadée que c'est pas l'immigration le problème, c'est le capitalisme débridé, c'est d'autres choses qui font que si les personnes n'ont pas de travail ou n'arrivent pas à avoir un travail satisfaisant, c'est pas parce qu'il y a des personnes qui leur prennent, parce que sociologiquement, c'est prouvé que les personnes exilées prennent des boulots que... Enfin, n'ont pas les boulots qu'ils avaient au pays, n'ont pas les boulots à la hauteur de leur capacité. Et pour moi, c'est vraiment quelque chose d'une stratégie pour avoir du pouvoir. Donc en effet, oui, je trouve que l'extrême droite, ça jouer sur cette peur-là, jouer sur la division, c'est ce qu'elle arrive le mieux à faire. Mais moi, en tout cas, ce qui me donne aussi beaucoup d'espoir, c'est de voir... que le racisme, même si c'est plus décomplexé qu'avant, chez certaines personnes qui se disent plus racistes, se donnent plus le droit de voter FN, RN ou tout ça. Mais d'un autre côté, il y a aussi une prise de conscience et des choses qui seraient plus acceptables avant. Enfin, en tout cas, moi, je le vois dans les œuvres culturelles. Quand je relis les livres de Joseph Kessel ou des livres même des manuels scolaires du début du XXe, en fait, il y a des choses... je pense que on est complètement réac si on dit ça, alors qu'à l'époque c'était normal. Et je pense qu'il y a vraiment cette tension là, et c'est ce petit espoir de me dire on a quand même, on avance un peu quand même sur certaines questions, même si on le voit pas toujours sur les grandes organisations.
Et là sur, merci beaucoup en tout cas sur tout ça, c'est. J'arrive pas forcément à synthétiser dessus, mais je vois totalement la vision. En tout cas, c'est exactement ce qui se passe. En tout cas, je vois totalement le mouvement, ou en tout cas, la lutte contre tout ça. Je voulais savoir sur ce plan-là, ou en tout cas, est-ce que je pense que du coup, ces cinq dernières années, vous avez pu constater, ou est-ce que vous pouvez constater qu'il y a eu, pas une accentuation, mais... limite, ou est-ce que vous avez vu plus de, comment dire, comme quoi le racisme, en tout cas les actes racistes sont plus, se sont plus répandus sur ces cinq dernières années. Est-ce que vous pouvez, est-ce que vous l'avez vu en tout cas, ou vous l'avez ressenti sur...
Le ressenti, oui, les médias sont là, Facebook, Instagram, TikTok, il y en a plein. Où aujourd'hui, n'importe qui avec un réseau internet peut dire que oh, toi, je t'aime pas, toi, rentre chez toi. Mmh. On l'a vu même avec les événements sportifs de chaîne internationale, avec des clubs internationaux qui jouent, ou dans un stade, qu'un public se permet de s'attaquer à un sportif de façon raciale pour dire que ceci, c'est là, ceci, c'est là. Et du coup, dire que ressentir, franchement, moi, je suis... Moi, quelquefois, je suis déçu. Parce que tous ces mots, voire parlant de racisme et tout, c'est accentué dans ma tête vraiment ici en Europe. Que ça devient quelque chose vraiment que souvent, ça peut être à la première lettre. Tu vois, c'était quelque chose où je pensais peut-être une fois à l'année. Mais maintenant, on en parle partout, partout. Et à force, ça apprend les gens. Des fois, il y en a d'autres qui peuvent se bloquer suite à un événement qu'on peut juste qualifier raciste. Ils se retrouvent bloqués sur cette scène et directement ou immédiatement, ils deviennent racistes ou ils prennent le racisme d'une autre ampleur. Les gens... Ils scandalisent le mot aussi. C'est que, voilà, ils scandalisent le mot.
En tout cas, tu peux constater que grâce, comme tu l'as dit, grâce aux réseaux sociaux, ou même juste actuellement, le taux sur le racisme, c'est vraiment très, très accentué, très, très accentué sur ces 5 dernières années.
Oui. En tout cas, moi ça fait un peu. J'ai grandi dans un milieu plutôt blanc. Du coup, le racisme, en fait, c'était pas un problème parce que je le voyais pas, parce que j'étais qu'avec des gens qui me ressemblaient. Et c'est depuis 2017 où je suis vraiment être beaucoup en lien avec des personnes exilées et avec des personnes racisées. En tout cas, ce que je vois, c'est qu'il y a une forte prise de conscience que certaines choses sont racistes, qu'il était peut-être pas perçu avant. Et je pense que c'est vraiment une chance d'arriver à se rendre compte qu'en fait, c'est des mal-être ou des choses que ces personnes ressentaient. Ce n'était pas leur faute, c'était des réactions racistes. Et moi, en tout cas, ce que je vois, c'est que ces dernières années, c'est sûr qu'avec les lois contre la question de l'ensauvagement de la France, les lois contre le communautarisme, les lois asile et immigration, c'est des lois racistes. Et qui, clairement, en tout cas, pose un cadre qui est de plus en plus conservateur et de plus en plus dur. Donc oui, en tout cas, moi, je trouve qu'au niveau institutionnel, il y a une augmentation du racisme d'État. Ça, c'est sûr.
Après, c'est vrai que, comme tu le disais avant... j'ai l'impression de trop m'épuiser la parole, excusez-moi. C'est vrai que, comme tu le dis, je me base sur ce que tu as dit, comme quoi, quand tu t'as grandi, en tout cas, t'es autour d'un environnement... Tour de blanc, c'est vrai que ça doit être... c'est pas simple, en tout cas, de voir du même côté. En tout cas, mais en tout cas, c'est... Après, sur ça, justement, on a trouvé des statistiques, ou en tout cas des chiffres, sur un petit peu en France. Avec Tessa, on en a trouvé. Je sais pas si Tessa, tu veux le dire.
D'après ce qu'on a trouvé, juste pour ajouter du coup, un petit côté stat aussi à l'émission et pour donner un peu une réponse à notre question... d'après les données du ministère de l'Intérieur, en effet, le nombre d'actes à caractère raciste enregistrés chaque année a fluctué depuis les années 2000. Mais on voit qu'il y a une forte augmentation et notamment le service central du renseignement territorial, il a enregistré 159 actes racistes en 2000, alors que maintenant, là, en 2023, on est à peu près à plus de 1200 actes racistes maintenant. Donc c'est un peu dû aussi, vous l'avez très bien dit tous les deux, en fait, c'est un contexte aussi général, que ce soit politique et que ce soit aussi au niveau du coup des lois, mais aussi en fait de l'ambiance générale sur les réseaux sociaux. Les choses, elles s'amplifient très rapidement, je pense.
Et surtout, c'est ceux qui sont pris en compte.
Oui, évidemment. Ouais. C'est que ce qui a été, en effet, relaté, en fait.
En tout cas, c'est ce qu'on a. En tout cas, c'est ce qu'on. Sur les statistiques, c'est ce qu'on a trouvé en France. En tout cas, on n'a pas pris franchement sur. Parce que je pense que ça est encore plus, mais en tout cas, c'est ce qu'on a trouvé déjà là. Ouais. C'est déjà énorme. Déjà, quand on voit, et ça fait quand même peur. Ça fait quand même froid dans le dos quand on voit ça, quand même. Mais heureusement que nous avons quand même des moyens pour lutter contre. Et je voulais vous demander, par quels moyens nous pouvons lutter contre toutes ces actions, justement. Peut-être Mandy ou peut-être...
T'as quelque chose à dire?
Oui, je peux dire. Ouais. Par quel moyen? C'est arrêter d'informer les gens du racisme. Si j'ai dit informer des gens du racisme, c'est que c'est oublier l'acte colonial, mais c'est impossible. Mais pour ça, il faut respecter ce peuple, ses descendants, pas forcément de ces personnes colonisées, mais ces personnes de même couleur que ces gens colonisés. Il faut les respecter, il faut le respect et il faut surtout la reconnaissance. En vrai, je ne dirais pas, je m'en fous que quelqu'un me reconnaisse, mais ça m'est égal. Mais c'est, en fait, c'est dans l'esprit, c'est dans l'idée. Il faut que tu aies dans la tête que cette personne a été victime de ça, mais par sa couleur, mais ce n'est pas elle.
Oui, moi, c'est hyper intéressant ce que tu dis. Moi, je pense qu'il y a vraiment plein de manières de lutter contre le racisme. Quand je vois les copaines des luttes pour le peuple palestinien, quand je vois tous les collectifs qui se créent, les gilets noirs qui réaffirment leur droit d'être ici et le droit d'être considérés, il y a un super syndicat des livreurs à vélo, composé de clandestins qui affirment qu'en fait ils ont le droit d'être ici. Moi je trouve qu'il y a plein de manières de le faire. Et nous, moi, ma manière personnelle en tout cas, ça a été de passer du temps avec des personnes exilées, de les accompagner dans les endroits où moi j'ai des privilèges, notamment que c'était à Briançon pour aider des personnes sur place, mais aussi ici en préparant des personnes qui demandent l'asile pour homophobie. Pour leur entretien au Price NDA, leur offrir un lieu communautaire pour qu'il y ait quelque chose qui se crée entre eux. Et puis il y a le livre, pour moi en tout cas, c'est vraiment un outil militant de se dire qu'on l'a écrit pour que... Donc le livre des vies orageuses que le collectif Chola et moi avons écrit, où le but c'était vraiment de pouvoir parler de l'exil à des personnes qui n'y connaissent rien, par le biais d'un roman, et justement de se dire que peut-être on peut contribuer à changer des imaginaires, parce que c'est pour moi, c'est des histoires qu'on se raconte qui agissent, qui nous donnent le sens, qui vont nous pousser à l'action.
Oui, ça passe par tout un côté associatif, mais aussi surtout de la sensibilisation et de la prévention, c'est super important, notamment dans l'éducation aussi des plus jeunes, et je pense que c'est là qu'est le nerf de la guerre, et c'est à travers des formes artistiques aussi que ça passe, et des livres, c'est un point essentiel, c'est sûr.
Et ce que tu m'as dit sur le fait de reconnaître la valeur des personnes, pour moi c'est vraiment le plus important, parce que en fait le racisme il s'effondre une fois qu'on rencontre les gens en tant qu'égal, il n'y a plus de raison d'exister, évidemment.
C'est très marginal, et notamment ce que vous avez dit au niveau de l'éducation des enfants, c'est qu'il faut arrêter de transmettre ces effets qui sont pas gentils aux enfants, qui vont grandir avec, et même s'ils l'ont pas vécu, mais quand même, ils peuvent vexer un de ses amis par rapport à ces histoires qui, lui aussi, n'a rien à voir avec. Voilà, il faut vérifier la progression des enfants, leur éducation, les messages qu'on les transmet. Du moment que beaucoup d'adultes aujourd'hui en parlent et savent ce que c'est, on va faire l'effort... par la littérature, par des spots comme ça, parler de ce qui fait vexer les gens du fait d'être raciste, de par sa couleur ou de par son physique, je ne sais pas quoi, parce qu'il y en a tellement qu'on... Des fois, moi, je suis perdu. Mais il faut que la génération qui vienne, qui arrive à ne pas développer vraiment ces thèmes qui ont été développés depuis des siècles. C'est super important.
C'est un beau message de prévention pour les générations d'après. Tu as évoqué le mot littérature, c'est parfait parce que nous avons parlé, du coup, comme tu l'as très bien dit avant, Mathilde, vous avez coécrit en tout cas un livre que tu nous as bien présenté. Et justement, on va en parler du coup des vies orageuses. Et avant de lire des extraits, est-ce que tu pourrais nous en dire un peu plus, tu nous as déjà plus développé, mais peut-être pourquoi ce livre en fait ? Genre, qu'est-ce qui. Je ne sais pas comment formuler la question, mais comment. Qu'est-ce qui.
Est-ce que tu parles de l'origine du livre ?
Voilà, c'est. Donc, voilà, je voulais partir. Voilà, c'est ça, l'origine du livre.
Eh bien, à l'origine, c'est deux amis médecins qui travaillait au centre de dépistage de Grenoble. Et elle, à ce moment-là, en tout cas, c'était en 2018 et 2019, il y avait toutes les personnes qui arrivaient à Grenoble passaient par le Cégide pour être dépistées et pour avoir des vaccins. Et en fait, elles étaient les premières personnes qui recevaient les personnes exilées arrivées. Et c'était le premier endroit de soins. En tout cas, c'était pas un endroit où il fallait se battre pour quelque chose. C'était plutôt un endroit où les personnes pouvaient exprimer leur vulnérabilité. Et du coup, elles se retrouvaient à assister, à être témoins de situations extrêmement difficiles, de familles malades qui étaient à la rue, de gens qui étaient en grande souffrance, avec des stress post-traumatiques très forts. Et en fait, elles ne savaient pas trop quoi faire parce qu'elles n'avaient pas le droit de elles n'avaient pas le droit de les soigner, elles faisaient juste le dépistage. Et un jour, il y avait une famille de 4 enfants qui étaient à la rue et elles se sont dit que là, c'était un peu trop. Et elles se sont mises à chercher un appartement pour les loger. Et il y a une association du Grésivaudan qui a dit, nous, c'est OK, on peut vous être le prête-nom pour ce logement. Par contre, il faut que vous trouviez des fonds. Et à ce moment-là, elles ont dû écrire un appel aux dons et mettre en mots leur expérience. Et elles se sont rendues compte que ça leur faisait vraiment beaucoup de bien de pouvoir expliquer ce qui se passait, ce qu'elles voyaient, et pouvoir le transmettre à des amis qui connaissaient rien à cette histoire. Et elles se sont dit, je ne sais pas à quel moment elles se sont dit ça, mais que ce serait chouette d'écrire un livre pour pouvoir justement continuer à transmettre, témoigner de ce qu'elles voyaient. Et moi, à ce moment-là, je m'étais cassé la jambe et j'étais dans leur colloque. Et j'avais déjà écrit un livre et elles m'ont proposé de l'écrire.
Et ben nous, nous allons... Normalement, on est censé le faire d'une façon un peu... on est censé annoncer, du coup, une musique. Mais du coup, pour changer un peu, nous allons vous proposer à Mandy et à toi de nous faire, du coup, une pause musicale, mais du coup, une pause littéraire en lisant certains extraits de votre, du coup, du livre des vies orageuses.
Je vais lire... Un extrait de Idrissa sur la page 75 et 48. Ah, pardon. J'attends. J'attends toujours jusqu'à user le bout de la patience. Attendre pour la CMUC, l'avis de l'Italie, le papier qui dit procédure normale. Attendre que la journée passe. Parfois, ça flambe à l'intérieur et j'ai envie de secouer la vie. De remplir la boîte aux lettres avec tout ce que j'attends. J'attends le bus, mon tour à la préfecture à Lyon. J'attends pour la soupe populaire, que le téléphone charge, que la douche se libère. Je suis allé voir Ibrahima, il connaît tout ici. Il est vieux, il est sage. Je suis allé vers lui. C'était une bonne idée. Il a dit, tu sais ces papiers, les Français, ils aiment trop les papiers. Tu peux pas faire, c'est bon, c'est rien.
Merci beaucoup. Peut-être est-ce qu'il y en aurait un autre, peut-être à.
Ouais, je peux lire là.
À nous partager.
Je peux lire le deuxième extrait d'Idrissa si tu veux. Ça te va?
Ouais.
C'est un extrait qui est. Donc Idrissa, c'est un personnage guinéen et c'est un extrait qui est à peu près à la fin du roman. C'est la réunion au Zola. Tous les frères ont la nouvelle carte, sauf Jules, qui a perdu l'ADA à cause du retour en Italie. Tous s'énervent et ils crient, ils ont raison. La vie est déjà difficile. Si en plus Macron ajoute d'autres complications, il ne nous aime pas. Il veut qu'on ne puisse jamais travailler, qu'on ne puisse jamais avoir l'autonomie de l'argent. C'est lui qui fait de nous des faux hommes, des galérants, des enfants qui doivent toujours dire « s'il te plaît ». C'est lui qui nous dit d'aller encore à la préfecture, qui nous ramène en Italie où personne ne veut de nous. Moi-même, je suis en colère. Moi, je suis rien, moi. C'est lui, le président de la République. C'est toujours pareil. On dit, là-bas, c'est mieux. Je vais et je traverse le désert, la Libye, la mer. On m'aide et parfois pas. Si personne ne tend la main, je ne peux rien, rien de rien. Quand j'aurai les papiers, je pourrai. Mais ce n'est pas maintenant et je suis tout comme mes frères. J'ai une maison, de la bonne nourriture. J'ai de la chance, mais un jour, on me dit, cette carte, c'est pour payer avec la machine uniquement et je dois bien le faire. C'est quoi être un homme alors? Être comme l'enfant pour ceux qui décident pour moi? Étienne, Adrien, Estelle, Célia, Léa, ils ont quoi de plus que moi ? En travail, de la famille ici, tout ça juste parce qu'ils sont nés de ce côté-là, de ce côté où on peut. Moi, je viens de l'autre côté, de celui de ceux qui n'ont pas le droit, ceux qui sont des hommes pourtant. C'est comme une arbre amère qui toujours colle au palais, fait trébucher quand je veux avancer. Je ne demande rien de plus que d'être en Malinkeba, en africain d'ici, de France, en français, avec ce papier qu'on agite devant moi sans jamais vouloir me le donner.
Merci beaucoup du coup pour ce passage. Vous êtes toujours sur Radio Campus 98. Et du coup, on avait une question avec Oscar. On avait prévu de vous faire lire des extraits, on voulait savoir qu'est-ce qui avait motivé votre choix, pourquoi ces extraits-là, qu'est-ce qui vous font ressentir personnellement, ou alors c'est une question de préférence, ou bien s'il y a un message spécial que vous voulez faire passer à travers ça.
Oui, c'est un message. Au fait, avec l'administration française, elle est assez lente. Je ne dis pas que ce n'est pas rapide, mais c'est trop long. Et avec la demande d'asile, c'est hyper très très long. Il y en a qui attendent jusqu'à 3 ans, 4 ans pour avoir une réponse de CNDA, qui est hyper longtemps. Et pendant ce temps, il attend. Il n'est pas logé. Il a une carte OFI, notamment qu'il paye qu'à la machine. Il ne peut pas travailler, mais il faut qu'il vit. Il a l'allocation quand même mensuelle, mais qui est une somme, je ne dis pas qu'elle n'est pas suffisante, mais il vaut mieux avoir les moyens de s'en sortir soi-même que d'attendre à chaque mois qu'on te donne une somme ou qu'on te dise comment la consommer. Le message est que il faut que si jamais une personne est exilée et qu'elle est en demande d'asile dans un territoire, je ne dis pas qu'ils ont tous les moyens, mais je sais qu'ils peuvent faire tous les efforts pour vite examiner la situation de la personne afin qu'ils sachent où il est, qu'ils sachent que s'il peut rester en France ou pas. Parce que l'attente est très longue, tu vas attendre 5 ans et après on te dit « Monsieur, vous n'avez pas les documents, il faut quitter le territoire ». Et pourtant, tu as attendu 5 ans. Voilà.
Oui, et moi dans mon extrait, ce qui me marque, c'est un peu bizarre de dire ça parce que c'est moi qui l'ai écrit. Alors oui, je trouve que ça me marque. Enfin, en tout cas, ce que je pense que je voulais dire à ce moment-là, c'est la déshumanisation et l'impuissance dans laquelle sont mises les personnes exilées, où il n'y a plus de pouvoir sur leur vie. Si quelqu'un les aide, ça va mieux. Si on ne les aide pas, ça va pire. Et cette dépendance, elle est très difficile à vivre. Et moi, je suis très admirative des personnes que j'accompagne parce que je ne sais pas comment ils font pour tenir ça. Et cette soumission à si une loi passe qui est contre eux, leur vie, elle est bouleversée. Je trouve que c'est pour ça aussi qu'on a appelé ce roman des vies orageuses, c'est que c'est des vies qui sont soumises à des changements météorologiques sur lesquels ils n'ont pas de prise, à des changements politiques, c'est une vie en plein vent.
Oui, c'est super intéressant aussi de voir comment à travers le texte, on sent que c'est vraiment un point en fait aussi à l'administration française. Ça revient beaucoup dans le livre et c'est un point hyper important, je pense, qui est à relever et qui est le plus gros. Ouais, le plus gros problème pour les exilés aussi. Mmh. En plus de tout ce qui va avec, déjà. Mmh. Et moi, il y avait une question qui me trottait un peu, dont j'aimerais avoir la réponse. C'est aussi, vous avez choisi, de faire ce livre, avec une coécriture, donc entre le collectif Jolie, et toi, Mathilde Gall. Et je voulais savoir pourquoi ce choix-là et qu'est-ce que ça apporte vraiment, qu'est-ce que ça apporte au livre, au récit. Quel était en fait, d'où vient cette initiative et quel était vraiment le but, quoi.
Ok. À l'origine, je vous ai raconté le moment où on a décidé de l'écrire et on y allait vraiment à l'arrache, on ne savait pas du tout où on allait. C'est juste que on s'est très vite retrouvé à trois pour essayer de se dire comment est-ce qu'on va écrire ce livre, ok, on a envie de quoi, on a créé un peu des personnages et puis on a demandé à trois amis de donner leur témoignage et on a fait des longs entretiens là-dessus. Et après, quand je l'ai c'est tout moi qui l'ai écrit. Donc toute la première version, c'est moi qui l'ai écrit. Et quand j'ai fini de l'écrire, il y a une personne, du coup, une des médecins qui a quitté l'aventure. Et on s'est retrouvés à deux en se disant, en fait, ce texte, il ne nous appartient pas. Il y a trop de voix multiples. Il y a la voix des trois amis qui ont créé Idrissa, il y a la voix de nous trois qui avons créé le personnage de Sarah. Et il y avait aussi toutes les voix des personnes qu'on avait accompagnées, mes copines... en tant que médecin et moi en tant que militante à Briançon à la frontière. Et on ne se sentait pas de se dire c'est notre livre et moi je ne me sentais pas de dire c'est mon livre. Du coup, on a choisi de demander à des amis de le relire avec nous. C'est là que Mamdi est arrivée dans l'histoire. Et pendant 6 mois, on a relu tous les 15 jours 10 pages à voix haute en le retravaillant. Et ça a vraiment... Alors, c'est pas toujours facile, mais moi, j'ai l'impression que mon travail a été vraiment très respecté et que ça a donné une justesse au texte qui a fait qu'à la fin, quand on l'a fini, on s'est dit, ben, c'est plus seulement mes mots, c'est aussi les mots de Mamdi, c'est ceux de Manon, de Laure, de Riwa, de Claire. Et on peut plus prétendre que c'est juste une personne qui l'a écrit. Notamment, moi, je trouve que le travail que Mamdi et Claire ont fait, qui est en travail de montrer en tout cas dans mon écriture les endroits où les biais racistes que j'avais émergeaient, ça a permis de donner une autre profondeur au message et au personnage d'Idrissa particulièrement. Et Claire, qui est une amie qui est linguiste, elle allait chercher tous les faits culturels en disant « est-ce qu'il y a des boubous en Ouganda ? Ah, je vais demander à des Ougandaises. Est-ce que cette expression-là, elle se dit en Ouganda ? Ah, est-ce que cette expression-là, Mamdi, elle a fait la même chose pour la Guinée ?» Parce que moi, mon français était plutôt camerounais, parce que j'avais passé beaucoup plus de temps avec les Camerounais, du coup, ça marchait pas très bien pour un Guinéen. Donc, il y a eu vraiment ce travail de changement.
Bien travaillé.
Ouais. Et après, quand on a fini, on s'est dit, bon, on va essayer, on continue de le porter ensemble, on continue vers la diffusion, enfin l'édition, la diffusion, et Mamdi particulièrement a contribué à une expo aussi. Peut-être que tu peux plus en parler que moi.
L'expo, dans le livre, on a eu des extraits sur lesquels on a demandé à des artistes de nous sortir ça sous forme d'image pour aussi permettre à ce que d'autres personnes aussi comprennent ce qu'on veut ici communiquer, ce qu'on veut transmettre, parce que il y en a pas mal qui savent pas lire aussi ou qui n'ont pas le temps de finir un roman et voilà. Et
ouais, c'est fou, c'est super intéressant, enfin je savais pas, mais du coup c'est trop bien, c'est vraiment dans le thème en plus.
Ouais. Et du coup, ses amis ont tracé, on a travaillé les parties qu'on voulait que ça soit peint. On les a trouvées, on est tombé d'accord sur différentes parties du livre qui a été peint par 10 artistes.
Neuf
artistes. Du coup, on a eu 9 thèmes qui ont été peints, qui ont été représentés par des images qui parlent aussi de l'immigration, de la difficulté, de l'attente, de l'exil. En gros, toutes les complications de la foi, racisme ou migratoire.
C'est surprenant, je veux dire, tout ce cheminement pour arriver à un livre. Après, justement, c'était ça la question que je me posais, parce que là, comme tu nous as parlé de l'exposition avec 10 artistes, tu nous as parlé un petit peu du cheminement, et je voulais savoir combien de... combien de temps ça a pris vraiment le processus pour... arriver à la sortie du livre. Parce que le truc, c'est que quand vous nous dites comme quoi il y a 3 personnes pour un tel, 3 personnes pour un autre, il y a eu des expositions avec 10 artistes, combien de temps finalement ça vous a pris pour vous ?
On a commencé à en parler en novembre 2018. Moi, je l'ai écrit entre le mois de mars et le mois d'avril 2019. La relecture, on a commencé en novembre 2019 jusqu'à juillet 2020. Non, là, novembre 2020 jusqu'à juillet 2021. Et après, ça a pris presque un an pour trouver la maison d'édition. Et il est sorti finalement en 2023, en avril 2023. Et depuis 2023, en fait,
le plus gros travail, en tout cas, on a tourné dans toute la France, parce que, en fait, notre but, c'était pas juste d'écrire un livre. Notre but, c'était aussi de rencontrer des gens et de les sensibiliser. Le livre, c'est parfait parce que c'est quelque chose qu'on peut donner et qui voyage. On a plein de témoignages de gens improbables qu'ils le lisent. Donc, il y a vraiment ça, mais on voulait aussi pouvoir aller à la rencontre des gens. Du coup, je pense qu'on a fait à peu près 150 rencontres en France et en Suisse. Et dans plein de lieux, dans des refuges de montagne, dans des librairies, bibliothèques, des lieux collectifs, dans des lycées, des collèges, et dans des centres de santé aussi. C'est pas fini, quoi. En tout cas, on s'est toujours dit, à un moment, ça s'arrêtera. Pour le moment, ça s'arrête pas. Donc, on peut dire que depuis 2018, on vit avec ce livre et de plein de manières différentes.
C'est surprenant. Je veux dire, je vois tout ça, je suis en mode waouh, c'est beaucoup. Et tu nous as dit sur tout ça. Et pendant le livre, je pense qu'il y a eu certaines influences, en tout cas pour toi, Mathilde, qui ont pu t'aider. Mais la question, c'est étant est-ce que quelles ont été tes influences qui auraient pu, en tout cas, t'aider pour quand tu étais pendant le. Pendant le moment de scénario, en tout cas l'écriture, s'il y en a qui t'ont...
Je pense que mes principales influences, ça a été les gens que j'ai rencontrés à Briançon. J'ai eu la chance de rencontrer beaucoup de Camerounais qui étaient très politisés et qui du coup m'ont fait prendre conscience un peu, qui m'ont appris la vie en fait. J'ai passé pas mal de temps dans un squat à Briançon. Et en fait... je pense que c'est cette partie qui m'a beaucoup influencée. Et après, toutes les histoires que m'ont racontées les amis médecins et puis aussi le fait d'avoir fait les entretiens de manière très, très approfondie avec trois copains. Donc, il y a eu tout ce petit mélange. Et je crois qu'au-delà de ces... En 2019, j'ai fait un gros burn-out à cause de ce qui se passait à la frontière. Je me suis cassé la jambe, d'ailleurs, gentiment. Et je crois que ce livre, il m'a permis, il m'a permis de me rendre compte que c'était pas que de la difficulté, ce que j'avais vécu à Briançon. Et il m'a permis de me rendre compte que, il y avait eu de la joie, il y avait eu de la solidarité, j'avais appris plein de choses, que ma vie était beaucoup plus riche maintenant. Et au-delà de l'aspect juste fictionnel et d'écrire en livre, je crois que pour moi, ça m'a permis... personnellement de relire ce qui s'était passé dans ma vie et aussi dans le collectif de pouvoir échanger ensemble sur... Parce qu'on est toutes dans le collectif, soit des personnes qui sont exilées, soit des personnes qui passent du temps avec des personnes exilées et on est confrontés à des difficultés. Bien sûr, nous, qu'on vit pas pour nous, mais en fait, de voir des amis qui souffrent, ça crée aussi des traumatismes. Ensemble, on a pu échanger sur qu'est-ce qui se passait pour nous, comment est-ce qu'on s'en sortait. Et ça nous a donné tous beaucoup de force. Et moi, je sais que si j'avais pas écrit ce livre... quand on a fini la relecture, c'est le moment où j'ai recommencé un engagement avec des personnes exilées. Je pense que sinon, j'en aurais pas été capable. C'était trop dur. Enfin, en tout cas, pour moi, ça a été trop dur, la frontière.
Maintenant, vous savez comment a été fait des vies orageuses de... Mathilde Gaël et le collectif Ciao. Et ça. Nous vous proposons de marquer une petite pause musicale. Nous revenons dans un instant.
Vous finirez seuls et vaincus. Sourd aux palpitations du monde, à ses hoquets, ses hauts, ses bas, ses haussements d'épaules veulent, au recensement des ossements qui tapissent le fond des eaux. Vous finirez seuls et vaincus, aveugles aux débris tenaces, de ces vies qui têtues s'enlacent, de ces amours qui ne se lassent, même lacérés de se hisser à la cime des songeries. Vous finirez seuls et vaincus, grands éructants rudimentaires, insouciants face à nos errances, sur la rude écale de la terre, indifférents aux pulsations qui lâchent laisse à l'espérance. Vous finirez seuls et vaincus, car longue, longue est la mémoire des pieds, des peaux, des au revoir, et de ces temps itinérants où, devisant et divisant, vous créez un monde en noir et blanc. Vous finirez seuls et vaincus, vos cris, vos corps et vos credos, autorités en toc et broc, ne sauront vous sauver de rien. L'éclat de nos vies entêtées éblouira vos en dedans. Et vos enfants joyeux et vifs feront rondes et farandoles avec nos enfants et leurs chants, et s'aimant sans y prendre garde, vous puniront en vous offrant des petits enfants chatoyants. Vous finirez seuls et vaincus, car invincible est notre ardeur, et si ardent notre présent, incandescent notre avenir, grâce à la tendresse qui survit à ce passé simple et composé. Seuls et vaincus.
Vous êtes toujours sur Radio Campus 90.8 dans le cadre de l'apérophonie spéciale avec les E-R-E qui s'invitent dedans. Nous sommes toujours avec Mandy, Mathilde et Tessa. J'espère que vous allez bien, que vous êtes toujours là.
Ouais.
Et du coup, vous venez d'écouter du coup Seuls et vaincus de Gaël Faye. Il me semble que c'est une inspiration, ou en tout cas... un coup de cœur pour Mathilde. Est-ce que tu peux nous en parler, nous dire un petit peu?
Oui, j'aime vraiment beaucoup cette chanson parce que je trouve qu'elle fait un retournement. On peut avoir tendance à voir les personnes exilées ou les personnes racisées comme des victimes. Et en fait, dans cette chanson, elles sont montrées comme des personnes. Enfin, c'est les pauvres petits, c'est les racistes qui vont finir tout seuls et tout vaincus dans leur coin. Et cette chanson me donne beaucoup de force. On a choisi quelques vers en exergue de notre livre. Et le titre des vies orageuses vient aussi d'un passage qui dit « L'éclat de nos vies entêtées », qui s'est transformé en des vies orageuses par plein de modifications.
C'est une belle... J'ai rien à dire, c'est juste. Et du coup, là, on a parlé du collectif Chaouli. Bon, excusez-moi pour la prononciation, vraiment. Et du coup, bah, en fait, on n'est pas plus rentré dans les détails. Est-ce que Mandy, tu pourrais nous, on en a parlé, mais on n'a pas plus développé. Est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu de qu'est-ce que fait le collectif, le collectif Chaouli, qu'est-ce qu'il fait?
Le collectif, moi j'ai participé dans le collectif depuis sa relecture. Du coup, nous, on fait des rencontres avec le collectif. On cherche à parler de l'immigration, de l'inégalité, de tous ces paramètres qui frustrent un peuple qui s'est retrouvé ici. Et le collectif, moi je suis dedans, je peux dire on s'est engagé notamment pour venir en aide de toutes ces personnes, en les aidant par ce message, par la voix d'un livre, par la littérature, en expliquant les situations dans lesquelles ils se retrouvent dès qu'ils sont en France. Pour des personnes qui sont méconnaissantes et qui portent des clichés jugeants sur ces gens. Nous, on combat le racisme avec ce livre, la complication de l'administration française, et on fait des sensibilisations. Et par ce livre, on réconforte beaucoup de monde, beaucoup de gens, parce que On vient même en aide de certains de nos collègues qui ont participé dans la relecture, qui sont encore dans des situations compliquées. Et du coup, je peux dire que c'est un livre social qui s'est fait naître dans une maison collective et qui, jusqu'à aujourd'hui, continue sa vie collective, notamment avec des personnes qui l'entourent et notamment qui sont beaucoup éloignées.
Ok, super intéressant, parce que c'est vraiment... en fait, le but, c'est pas que de sensibiliser, c'est aussi, en fait, d'essayer d'aider les personnes qui sont au sein même du collectif. Donc, c'est aussi un super beau message et une super belle cause. Mmh. Et justement, on parle du collectif Chaoli, on a même du mal aussi à prononcer le nom. Et on voulait savoir, on voulait faire partager à l'audience, qu'est-ce que ça signifie, justement, Chaoli, ou... Enfin, je sais pas bien prononcer, mais...
Choloi, c'est un terme de l'Afrique, c'est un mot. Du coup, notamment, des fois, il parle de langue et de dialecte. Du coup, c'est la langue polar, qui est une langue beaucoup parlée en Afrique de l'Ouest, mais moi, je suis originaire guinéen. Du coup, nous, en Guinée, on dit Choloi quand on parle de plusieurs oiseaux. Et du coup, c'est la liberté de ce petit oiseau qu'on s'est référé, qui voyage, qui migre, qui change de place, de temps, de saison, pas de frontières. On est tous bien où on se sent bien, quoi. Faut pas que la cohésion sociale nous mette mal à l'aise parce que il se sent chez lui plus que toi, ou parce qu'il est né là-bas, ou qu'il bénéficie de certains privilèges que toi tu n'en as pas. Du coup, Choloi, c'est un mot en polar qui veut dire les hirondelles, des oiseaux.
Voilà. Et c'est aussi une référence au premier titre du livre qui était « Elles migrent, elles squattent, elles annoncent le printemps », qui est un slogan qu'on avait rencontré dans la marche des 100 papes en 2020. En septembre 2020, la marche vers l'Élysée, et on trouvait que c'était très chouette. Pareil, c'est de se dire qu'un des messages du livre, c'est qu'il n'y a pas de problème d'immigration, il y a un problème d'accueil, et que la venue de personnes exilées, c'est une chance pour nous. Et que c'est ces personnes-là qui font le printemps de la France.
Finalement, tout est lié. Je veux dire, tout est lié avec le livre. C'est, ça fait combien de... Pour savoir, parce que du coup, j'avais cette question, ça fait combien de... je me rapproche bien, histoire qu'il n'y a pas trop de... Ça fait combien de temps que le collectif existe? Et, si nous voulons, en tout cas, communiquer avec vous, en tout cas, si on veut vous retrouver, où est-ce qu'on peut vous... où est-ce qu'on peut vous trouver?
On est sur Grenoble. Moi, j'habite Grenoble. C'est que Mathilde, qui a écrit le livre, elle vit à Grenoble. Nous retrouver, on a notamment un site internet. On est sur Facebook, on est sur Instagram, les Vies Orageuses. Du coup, vous pouvez nous trouver. On a un site internet aussi, si je me trompe.
On n'a pas de site internet, mais on peut nous contacter par notre maison d'édition qui est Le Monde à l'envers. Ouais. Et on a aussi une adresse mail qui est hirondelle, avec un S, @grésy.org.
Et est-ce que vous avez un endroit fixe? En tout cas, je veux dire, je ne vais pas faire comme une entreprise ou une association. Mais...
La part de Mamdi, non.
On fait pas mal de réunions, mais si jamais il faut se rencontrer, on peut trouver un endroit chouette qui peut aller à tout le monde.
Allez, tout le monde sait Mamdi, c'est bon.
Oui, on s'est créé pour le livre. On ne sait pas si on continuera d'exister une fois que le livre, on aura fini la publication, la diffusion. Mais en fait, on n'a pas de bureau, on n'est pas une association, on est vraiment juste un collectif.
Et est-ce que tout ça signifierait, après du coup ce livre, pourquoi pas un autre projet dans le style ou autre chose de prévu? Parce que si le collectif s'arrête avec le livre, est-ce que c'est pas aussi le début d'autre chose? Vous avez peut-être pas pensé jusqu'à là.
Je pense qu'on s'est retrouvés autour de ce livre et c'est quelque chose qui dure depuis 7 ans, donc c'est quand même quelque chose qui est important. Mmh. Mais on n'a pas vraiment de projet pour la suite. En fait, on continue de diffuser des vies orageuses et je crois qu'on s'est tous fait dépasser par ce que ce livre, en fait, moi en tout cas je conseille qu'on allait en vendre à nos copains et qu'on allait faire, bon peut-être qu'on allait voir aller dans, chez nos copains pour faire de la diffusion. Et en fait on continue de tourner en France, là cet été il y a des festivals qui nous ont contactés, il y a des colloques qui nous contactent, des profs de médecine, et en fait moi j'ai l'impression que pour le moment on ne sait pas quand ça va s'arrêter. Parce que ce livre, il vit sa vie maintenant. Et y a des gens qui nous appellent. Et tant qu'il y a des gens qui nous appellent, ou tant qu'on a envie, on a des idées de faire des trucs, on continue là. Moi, je n'avais pas du tout pensé à faire dans des lycées et des collèges. Et puis, finalement, on intervient dans des lycées et des collèges. Je crois qu'il y a vraiment un truc de gratitude de tout ce que vit ce livre. Après, je pense qu'on a... On va continuer chacune dans notre domaine un peu l'accompagnement et le fait de continuer à œuvrer contre le racisme et à agir contre la xénophobie. En tout cas, pour le moment, il y a le livre, ce qui nous tient ensemble surtout.
Et ben merci beaucoup. Oui. Nous allons arriver à la fin de cette émission, mais avant ça, je voulais juste savoir est-ce que par hasard... il y aurait quelque chose que vous voulez rajouter sur le livre, ou juste même en termes généraux sur le racisme, ou tout est bon pour vous? Peut-être Mandy, tu aurais peut-être quelque chose à rajouter.
Moi, ce que j'ai à rajouter, c'est de parler vraiment de la vie commune. Voilà. C'est en quelque sorte parler de la société, de nous qui avons des apparts porte face à l'autre ou sur le même bâtiment qui continue à se détester, à haïr parce qu'il a suivi une information hier à la télé qui disait que voilà, lui, il vient du Mali, il vient en France pour travailler, pour gagner de l'argent, pour faire ceci, pour faire cela. Ce que je veux que les gens comprennent, c'est qu'ils comprennent qu'il faut plutôt construire une vie commune, une vie sociale, une vie de voisins. Il faut faire comprendre aux gens que ce n'est pas un problème, notamment. Pourquoi ? Moi, tu as une boulangerie, elle est dans ton quartier. Moi, j'y viens, j'achète le pain là-bas. Toi, tu viens, tu achètes le pain là-bas. On se retrouve des fois à faire une queue, mais tu ne veux pas faire une queue derrière moi ou moi, je ne veux pas faire une queue derrière toi. Mais de nous deux, celui qui vient en retard, ce qui veut dire qu'il ne va pas avoir son pain. Ce que je veux faire comprendre encore, c'est que nous, immigrés, exilés, étrangers, africains ou je ne sais pas d'où, avec nous qui vivons, oubliez les chefs d'État, le ministre, le président qui ont leur quartier ministériel et tout propre. Et voilà. Ils nous mélangent entre nous pour vraiment... faire du bruit pour qu'il gagne quelque chose à parler, au fait. Parce que sans ça, il ne peut pas sortir demain à la télé pour dire telle région, il y a eu 150 personnes qui ont été mal logées, qui dorment dehors, voilà. La cohésion sociale. Je veux que les enfants ont des bons messages. Les messages qui ne disent pas que ces personnes sont des problèmes, c'est des étrangers, voilà, c'est des esclaves, c'est des descendants d'esclaves. On n'est pas tous des descendants d'esclaves. Voilà, il y en a eu même l'esclavagisme, mais même ça, c'est brutal de la part de la personne qui a fait cet acte.
Et merci. Merci beaucoup.
Ouais.
Merci beaucoup, en tout
merci
cas.
Merci beaucoup.
Nous allons finir sur ça. Merci à tous pour ce moment. Merci. Merci à Mathilde. Merci à Mandy. Merci à Tessa aussi.
Merci à Oscar.
Nous arrivons à la fin de cette émission qui était sur, du coup, avec les ERE. Nous remercions tout le monde. Nous remercions ce soir Ella qui était à la technique pour cette apérophonie. C'était l'apérophonie sur Radio Campus 90.8.
Sur Campus Grenoble.
Sur quoi?
Sur le 90.8.
Ah, sur Campus Grenoble 90.8.
Oui.